Daf Mem Zayin Amoud Bet, à la cinquième ligne avant la fin du Hamoud. On a vu plus haut que Rabba a dit qu'il y a une svara de Hoïl. Si quelqu'un a cuit du pain de Yom Tov pour le Chol, il n'est pas Chayav Malkout, parce qu'on dit Hoïl, Hoïl ça veut dire puisque, puisque ce pain peut servir à des invités qui pourraient se présenter pendant Yom Tov et avoir besoin de manger ce pain. Donc c'est-à-dire que ce pain, théoriquement, peut être consommé pendant Yom Tov. Donc on ne peut pas le rendre Chayav Malkout pour avoir cuit de Yom Tov pour le Chol, parce que cette cuisson peut être aussi pour Yom Tov. Donc Abaye lui a demandé, mais il y a une braïta qui dit que celui qui cuit du ghee d'anaché dans du lait pendant Yom Tov et qui le mange, il est Chayav 5 Malkout. Et un de ces Malkout, c'est pour avoir allumé du feu pendant Yom Tov. Donc il a allumé du feu qui n'est pas les Tzorech Ochel Nefesh. Ça ne sert pas à cuire de la nourriture, puisque il ne va pas pouvoir consommer ce ghee d'anaché. Donc il a allumé du feu pendant Yom Tov, inutilement, pas les Tzorech Ochel Nefesh, donc il est Chayav Malkout. Or, Abaye demande à Rabba, d'après toi, on devrait dire ici à la Svara de Hoïl, puisque ce feu peut lui servir à cuire d'autres aliments pour Yom Tov, des aliments qu'il a le droit de consommer, donc il ne devrait pas être Chayav pour le fait d'avoir allumé du feu pendant Yom Tov, puisque ce feu peut lui servir pendant Yom Tov. Et Rabba a répondu qu'effectivement, il faut enlever ce Malkout de Havara et compter à la place un Malkout pour avoir utilisé du bois de Moukté. C'est-à-dire qu'on parle du cas où il a utilisé du bois de Moukté pour faire cuire ce ghee d'anaché avec le lait. Et le bois qui est Moukté, on n'a pas le droit de l'utiliser pendant Yom Tov. Et d'après Rabba, c'est un Issour Minatora, donc il est Chayav Malkout. Amarlé, alors Abaye demande à Rabba, « Ve'a atu de'amart ba'i mine merav chizda, ve'amrela ba'i mine meravuna. » Il lui dit, mais pourtant c'est toi-même Rabba qui a dit, « J'ai posé la question à Chizda. » Il y a une autre version qui dit, j'ai posé la question à Ravuna, et vise ma far ou shechato tamid beyom tov mahu. Donc la question que Rabba a posée à Rav Chizda ou à Ravuna, c'est quelqu'un qui a amené un agneau des pâturages, donc un agneau qui se trouve dans les pâturages, puisque il revient pas, a priori il revient pas dans la ville, donc il est mouktsé, on n'a pas le droit de lui faire la shrita et de le manger pendant yom tov. Et Rabba a demandé à Rav Chizda ou à Ravuna si il a fait la shrita de cet agneau en tant que korban atamid pendant Yom Tov, quel est le din? Est-ce qu'on peut sacrifier ce korban atamid qui est mouksé ou pas? Ve'at amart lanala, et toi tu nous as dit à ce propos, tu as répondu à cette question avec la braïta suivante. Cette braïta cite un pasouk dans Yechezkel qui parle des korbanot. Et le pasouk dit, Vese achat minatson, minamataim, mashke Israël, les mitra ou leolav, et l'islamim, chaper aleem, nous machem elokim. Et dans cette braïta, la braïta a interprété de chaque mot de ce pasouk des dinim qui concernent les korbanot. Donc le premier mot du pasouk, c'est c'est un agneau, velo abechor. Donc de là, on apprend que on ne peut pas utiliser un bechor comme korban. C'est-à-dire, un bechor est en soi déjà un korban, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un premier-né, un animal premier-né, doit le donner au Kohen qui va l'apporter comme Corban, et on ne peut pas l'utiliser pour un autre Corban. Comment on apprend ça du Mossé? Parce que le Mossé inclut aussi bien des animaux mâles et femelles, or le Bechor n'est que un Bechor mâle, donc ça exclut le Bechor. Achat, ensuite dans le pasouk c'est écrit Achat, mais c'est Achat, Achat velo maaser. De là on apprend que on ne peut pas non plus apporter un Corban du maaser behema. Le maaser behema, c'est aussi un korban. Quand on a des animaux qui naissent dans le troupeau, il faut prélever 1 sur 10 qu'on apporte comme korban, maaser behema. Ça ne peut pas servir non plus pour un autre korban. On apprend ça du mot achat, parce que achat, ça veut dire unique. Donc, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie d'un groupe de 10. Minatson, la suite du pasouk, c'est minatson. Du mot min, ça veut dire une partie du tson. Donc, ça exclut, ça veut dire c'est pas n'importe quel tson qu'on peut apporter, mais seulement une partie du tson. Qu'est-ce qu'on exclut de là? Velo apelgas, et donc ça exclut le palgas. C'est quoi palgas? C'est une étape intermédiaire entre l'agneau et le bélier. Chez les moutons, dans la Torah, la première année, l'agneau s'appelle keves. Et quand il grandit, il s'appelle ahil, le bélier. Et entre les deux, ça veut dire dans le 13e mois, le 13e mois, il s'appelle Palgas. Donc, les 12 premiers mois, il s'appelle Keves. Le 13e mois, Palgas. Et après, il s'appelle Aïl. Donc de Minatson, on exclut le Palgas. Il n'est pas, on ne peut pas l'apporter comme Corban. Minamataim, la suite du pasouk c'est Minamataim. De là, on apprend Mimotar Shtemeot Shtayru Babor, Mikan Norla Shebetela Bemataim. Alors, Minamataim de 200, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit forcément, là on parle plus du Corban lui-même, mais des Nesachim, des libations. On apporte avec tous les Corbanantes, on a apporté des libations du vin qu'on verse sur le Mizbéar. Donc Minamataim, ça veut dire de ce qui reste des 200, c'est-à-dire de la part de 200 qui sont restés dans la cuve de vin. Ça veut dire que la partie qu'on va verser sur le Misbéar, elle provient d'une cuve dans laquelle il y a 200 fois cette quantité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y avait de la Orla qui est tombée dans cette cuve de vin, donc il y a une partie de Orla dans cette cuve de vin, et qu'il y a 200 fois sa quantité de vin qui n'est pas de Orla, la Orla s'annule, et on peut effectivement apporter de ce vin sur le Misbéar comme libation. Mikan la Orla chez Betel Abemataim, de là on apprend que la Orla s'annule dans 200 fois sa quantité. Alors Rashi précise que il y a un autre pasouk duquel on apprend que la Orla et Kilea Kerem s'annulent dans 200 fois leur quantité, mais et c'est donc il dit ici c'est l'Avdafka quand on dit Mikan, que c'est de là qu'on l'apprend, mais c'est-à-dire que d'ici aussi on trouve un appui à ce dîner-là. Mimashke Israël, c'est la suite du pasouk Mimashke Israël, de là on apprend Minamoutar et Israël, qu'il faut apporter du vin qui est permis au Israël. Mikan Amrou, c'est de là que les Chachamim ont dit, En Mevim Nesachim Minatevel, qu'on ne peut pas apporter du vin de pour les libations du Tevel. C'est-à-dire du vin duquel on n'a pas prélevé les Troumot et les Maasrot, donc il est Tevel, puisque c'est pas permis au Israël, le Israël ne peut pas manger ne peut pas consommer ce vin, donc on ne peut pas non plus apporter comme libation. La Braïta continue et dit Yachol lo yavi mina mukte. On aurait pu croire que on ne peut pas apporter non plus de libation du mukte. Amarta matevel miuchad chez isur gufo goramlo, afkol chez isur gufo goramlo, yatsa mukte chez isur gufo goramlo. Donc la Braïta dit non, on compare au tevel. C'est-à-dire que comme on a exclu le Tevel, on a dit ce qui est permis au Israël, ça exclut le Tevel. Qu'est-ce qui est particulier au Tevel? C'est que de la même manière que le Tevel, sa particularité, c'est que c'est un issour qui est intrinsèque au vin, c'est un issour du vin lui-même. C'est pareil pour tout issour qui est un issour du vin lui-même. Ça exclut le Mouktsé. Si on a du vin qui est Mouktsé, comme c'est pas un issour un issour gouffo, c'est pas un issour dans le vin lui-même, et là issour d'avoir acher garamlo, mais c'est le issour de quelque chose d'autre qui cause que c'est interdit, c'est-à-dire c'est le Shabbat qui l'interdit, c'est pas le vin en soi qui est interdit, donc ça on peut apporter des libations de mouktsé. Donc il répond à sa question à partir de cette braïta. Donc on voit qu'on a le droit d'apporter sur le misbéar du mouktsé, donc on a le droit également de sacrifier cet agneau qui était mouktsé, auquel on a fait la shrita en tant que tamid. Et Abaye conclut sa question contre Rabba. Il dit Veyi amarti sur mouktsé de oraita. Or, si tu dis, comme tu l'as dit plus haut, que le issur de mouktsé est minatora, mali issur gufo, mali issur davar acher. Quelle différence ça peut faire si c'est un issur qui est intrinsèque au korban ou aux libations? Et qu'est-ce que ça peut faire si c'est un issour qui est extérieur, qui est un issour d'autre chose, qui est un issour à cause du Shabbat? À partir du moment où il y a un issour minatora, donc le Israël ne peut pas le consommer, donc on ne peut pas l'apporter sur le Misbéar. Veod, et Abaye donne un deuxième argument contre Rabba, lui dit Ha'at hu de'amart chiluk melachot le Shabbat ven chiluk melachot le Yom Tov. Mais c'est toi-même qui as dit qu'il y a un chiluk melachot le Shabbat, c'est-à-dire que les melachot sont divisés par rapport à Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui a transgressé Beshogeg plusieurs melachot pendant Shabbat, Be'elem Echad, dans le même oubli, ça veut dire que il n'a pas réalisé entre une melacha et une autre qu'il avait transgressé un issour, il doit apporter un korban chatat pour chaque melacha qu'il a transgressé. Donc les melachot sont divisés par rapport au Shabbat, par rapport au issour du korban chatat quand on transgresse Beshogeg. Par contre, par rapport aux melachot de Yom Tov, quelqu'un qui transgresse des melachot de Yom Tov Bemezid, s'il fait deux melachot en même temps, Bemezid, il est chayav un seul malkout, même s'il y a deux melachot. Donc il dit, comment est-ce que tu peux me dire que il est chayav pas deux malkout, un pour avoir cuit du guidanaché pendant Yom Tov, ce qui est assour parce que c'est pas les tzorach ochel nefesh, et deuxièmement parce qu'il a utilisé du mouktseh. Mais c'est deux melachot de Yom Tov, sur deux melachot de Yom Tov, on est chayav un seul malkout. Et là, pikavara, veïla tseachera. Donc Rabba répond, il dit, alors, il faut effectivement, à la place du lave de Havara, il faut, à la place de ça, comptabiliser un malkout pour avoir utilisé du bois de la Avodazara, Vazara Meacha, où c'est qu'on voit qu'il y a un lave là-dessus dans la Torah, donc pour être malkout, c'est écrit Veloïd Bak Beyadecha Meuma Minachereb. Donc de là, on apprend que on n'a pas le droit de profiter du bois de la Avodazara. Amarli Ravacha Berederava le Havaye. Ravacha Berederava a dit à Abaye, Veninkenami Mishum Velotavitu Eval Betecha. Mais alors si c'est comme ça, il devrait être Hayav Malkout aussi, pour avoir transgressé le issur de Velotavitu Eval Betecha. C'est un issur supplémentaire par rapport à la Vodazara, qu'on n'a pas le droit. Alors les Rishonim disent c'est pas un issur simplement de rentrer la Vodazara à la maison, mais ça veut dire un issur d'utiliser la Vodazara. Donc là, il devrait être Hayav encore un autre Malkout pour avoir utilisé la Vodazara. Et là, Pikavara avait Tsegdesh. Donc il donne une autre réponse. Il dit, il faut à la place du lave de Avara, du fait d'avoir allumé du feu, puisqu'on a dit que d'après Rabba, il y a un Oil, donc il n'est pas Khayav sur ce lave de Avara. Donc à la place, il faut compter Tsegdesh, qu'il est Khayav Malkout pour avoir utilisé du bois de Hegdesh. On parle du cas où il a fait cuire le guidanaché avec du bois de Hegdesh. Vazara Meacha, où c'est qu'il y a un lave dans la Torah sur le fait d'utiliser le bois de Hegdesh, c'est sur le fait de brûler du bois de Hegdesh, c'est du pasouk suivant, Vacherem tisrefun baesh, lota asunken hachem elokechem. C'est écrit que la Vodazara, il faut la brûler dans le feu, et la suite du pasouk, c'est lota asunken hachem elokechem, vous ferez pas ça à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que le Hegdesh, on a pas le droit de le brûler. Donc il y a un lav, donc il est chayav malkout. Alors Rishonim pose la question, mais pourquoi il est pas chayav aussi pour avoir transgressé le issur de Meila? Il devrait avoir un malkout supplémentaire pour avoir transgressé le issur de Meila, puisque il a profité du Hegdesh, puisque il cuit quelque chose avec le Hegdesh. Il y a différentes réponses dans les Rishonim. Amar Rami Bar Chama a dit, A de Rav Chisda veraba, machloket de Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshuaï. Donc, Rami Bar Chama dit que cette machloket entre Rav Chisda et Rabba, est-ce qu'on dit Oil ou pas? Est-ce que quelqu'un qui a cuit du pain de Yom Tov pour le Chol, est-ce qu'il est Chayav Malkout ou pas, puisqu'on a expliqué que leur machloket c'est est-ce qu'on dit Hoil, puisqu'il peut y avoir des invités qui viennent, donc il a potentiellement cuit pour Yom Tov, donc il n'est pas Chayav Malkout, c'est l'avis de Rabba. Et Rav Chisda dit non, on ne dit pas Hoil, puisque lui il a cuit pour le Chol, que lui il n'en a pas besoin. On ne dit pas que puisque théoriquement il peut y avoir des invités qui viennent, et donc potentiellement ça peut servir pour Yom Tov, il est pas Chayav Malkout, il est Chayav Malkout d'après Rav Chisda. Et donc il dit, cette machloket entre Rav Chisda et Rabba, c'est la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la Mishnah. Donc dans la Mishnah, on a vu qu'il y avait une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua par rapport à une pâte qui est tmea, de laquelle il faut prélever la chala. Est-ce qu'on prélève la chala avant la cuisson ou après la cuisson? On a dit que d'après Rabbi Yoshua, il prélève avant la cuisson, d'après Rabbi Eliezer, il prélève après la cuisson. Et la Gemara veut dire maintenant que leur machloket, c'est par rapport à la svara de Hoil. Des Rabbi Eliezer savar amrinan Hoil, des Rabbi Yoshua savar lo amrinan Hoil. Que Rabbi Eliezer dit que on dit Hoil, et Rabbi Yoshua dit que on ne dit pas Hoil. Alors, on avait vu au début de la Gemara que la Gemara avait proposé déjà d'expliquer la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua par rapport à la svara de Hoil. Que la Gemara voulait dire que d'après Rabbi Eliezer, pourquoi est-ce que il y a un issour de Balirei ou Balimatsé par rapport à cette pâte, bien que c'est de la pâte de Chala, c'est-à-dire si on prélève la Chala avant la cuisson, pourquoi il y a un issour de Balirei ou Balimatsé si cette pâte devient Chamet? Parce que Rabbi Eliezer pense que même si la Chala ne lui appartient pas, mais il y a une svara de Hoil, puisque il peut annuler le prélèvement de la Chala en faisant un Tarat Nedarim, donc c'est comme si ça lui appartenait. À ce moment-là, s'il fait Atarat Nedarim, s'il annule le prélèvement, ça lui appartiendra à nouveau. Donc ça suffit pour le rendre Chayav de Balirei ou Balimatsé par rapport à cette pâte. Et Rabbi Yoshua, et c'est pour ça que d'après lui, on ne peut pas prélever avant la cuisson, parce que à ce moment-là, on n'aurait pas le droit de cuire cette pâte, et elle deviendrait chametz, il transgresserait le issur de Bali Raoui ou Bali Matzé. Alors que d'après Rabbi Yoshua, on ne dit pas oui, puisque cette challah ne lui appartient pas, et qu'elle appartient à personne, donc il n'y a pas de issur de Bali Raoui ou Bali Matzé par rapport à cette pâte. Là, ce que la Gemara propose, c'est pas cette svara de Hoïl, c'est d'expliquer la marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua par rapport à la svara de Hoïl, mais pas par rapport à cette svara de Hoïl dont on a parlé plus haut dans la Gemara, mais par rapport à un autre point. C'est de dire qu'il y a une deuxième marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est est-ce qu'il y a la possibilité, comme Rabbi Eliezer le propose, de cuire d'abord la pâte et après prélever la challah, ou pas? On avait dit que il y a un problème de prélever la challah et de la cuire après, parce qu'on va cuire une challah qui est tméa et qui donc ne peut pas être consommée par le Kohen, donc elle ne va pas être mangée, donc on n'a pas le droit de la cuire pendant le même temps. Seulement Rabbi Eliezer dit que si on ne prélève pas la challah avant la cuisson, on la cuit d'abord et après on cuit d'abord la pâte et après on prélève la challah. Là, c'est permis de cuire tous les pains, toutes les matzot qu'on va faire avec cette pâte. Pourquoi? Parce que il se base sur la svara de Hoïl. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que puisque, comme on avait déjà expliqué dans la Mishnah, puisque il peut théoriquement manger de tous les pains, de toutes les matzot, en prélevant un petit bout de chaque matza, ça lui permet de cuire toutes les matzot. Parce que si effectivement il mangeait de toutes les matzot et qu'il prenait juste un petit bout pour la frachatrala de chaque matza, il aurait le droit de cuire toutes les matzot. Parce que comme c'est une entité, le fait d'enfourner chaque matza est permis, même s'il y a une partie qui va être challah, mais comme c'est une seule entité qui enfourne la challah et qui va en manger une partie lui-même, il a le droit de l'enfourner. Bien que, alors Rabbi Eliezer dit que bien que on sait que finalement il va prendre une matza qui va rendre challah sur tout le reste, et donc cette matza qu'il va prendre, et celle-là il n'a pas le droit de la cuire, mais on utilise la svara de Hoïl, puisqu'il pourrait théoriquement manger de toutes les matzot en prélevant un petit morceau de chacune, donc ça lui permet de cuire toutes les matzot, même si on sait que finalement il va prélever une matza sur le reste. Alors que Rabbi Yoshua lui dit non, c'est assourd de faire ça, parce que on ne dit pas la svara de Hoïl, et donc puisqu'on sait que finalement il va prendre une matza sur le reste, cette matza il n'a pas le droit de la cuire. Donc, ça veut dire qu'il y a une double marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et les deux par rapport à la svara de Hoïl. Amar Rav Papa a dit, Rav Papa va repousser maintenant ce que Rami Bar Chama a dit. Rami Bar Chama a voulu dire que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua correspond à la marloquette entre Rav Chizkiya et Rabba. Rav Papa il repousse ça. Il dit, Vedilma, Adkan lokama Rabbi Eliezer atam d'Amrinan Hoïl, Ela de Beidana de Kailel et Tanoura, Kol Chada v'Chada Chazelel Didé. Mais peut-être que, quand est-ce que Rabbi Eliezer a permis, donc le fait que Rabbi Eliezer a permis de cuire toutes ces matzot, bien qu'il y en a une qui finalement va être challah, et donc qui va pas pouvoir être mangée, c'est parce qu'on dit que au moment où il rentre toutes ces matzot dans le four, on peut dire que chacune, elle est pour lui. C'est-à-dire que comme il n'a pas encore désigné quelle matzah va être pour la challah, donc chaque matzah qu'il enfourne, il peut dire celle-là, on peut dire que celle-là, elle est pour lui. Donc Rashi dit, on n'a même pas besoin de la svara de Hoïl pour ça. Parce que effectivement, concrètement, chaque matza peut, il peut la manger. Donc c'est pour ça qu'il permet de les cuire. Tandis qu'ici, dans le cas de la machloket entre Rav Chisda et Rabba, quelqu'un qui a cuit de Yom Tov pour le Chol, là le Hoïl, il dit quoi? Il dit que comme théoriquement il pourrait y avoir des invités qui viennent, et ça, c'est seulement s'il y a des invités qui se présentent. Donc c'est quelque chose de théorique. Pour lui, pour l'instant, concrètement, selon la situation telle qu'elle est maintenant, c'est quelque chose qui ne peut pas lui servir à lui, puisque lui, il a déjà mangé. Il n'a pas besoin de ce pain qu'il a cuit. Donc peut-être que Ima Achinami de l'Ambrinanoïl, peut-être que on dira pas Oïl dans ce cas-là d'après Rabbi Eliezer. Amar Rav Shisha Bered Ravidi. Maintenant, Rav Shisha Bered Ravidi lui aussi va repousser ce que Rami Bar Chama a dit, mais dans l'autre sens, et dit, mais Dilma Lori, peut-être que c'est pas comparable la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua avec la machloket entre Rabbi et Rav Chisda. Adkan lo kama Rabbi Yoshua tam de lo amrinan oil, ela deika chada de lo chazel e didé velo le orchin. Quand est-ce que Rabbi Yeshua a dit qu'on ne dit pas Hoïl? C'est dans le cas de la cuisson des matzot, parce que il y a une matza qui va servir ni à lui, ni à des invités. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une matza qui va être trala, et donc, qui va servir à personne, personne ne va pouvoir la manger, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de la cuire. Avalacha de chazé miat leorin, ima achinami abrinan oïl. Alors que ici, ce pain qu'il a cuit pendant un tov pour le chol, ça peut servir pour des invités, théoriquement. Il y a cette possibilité. Peut-être que là, hein, Rabbi Yoshua sera d'accord qu'on dit oïl. Donc tous les deux, ils ont repoussé ce que Rabbi Bachama a dit, que la machloket entre Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua correspond à la machloket entre Rav Chisda et Rabba. Rashi pose la question, il dit, mais comment est-ce qu'on dit ici, comment est-ce que Rav Shisha Bered Ravidi veut dire que d'après Rabbi Yoshua, on peut-être dire Hoïl, mais pourtant on a dit plus haut dans la Gemara, on a expliqué au début de la Gemara, que Rabbi Yoshua pense que pourquoi est-ce qu'on ne transgresse pas le issur de Chametz par rapport à la Chala? Pourquoi est-ce que la Chala, c'est pas grave si elle devient Chametz, on va pas transgresser le issur de Balirei ou Balimatsé? Et il a dit parce que on dit pas la Svara de Hoïl. Il dit parce que on dit pas que puisque il pourrait annuler le prélèvement, donc c'est comme si ça lui appartenait. Donc tu vois que Rabbi Yoshua il pense pas la Svara de Hoïl. Donc comment est-ce que Rav Shisha Bered Ravidi veut dire ici que Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua pense peut-être, il est peut-être d'accord avec la Svara de Hoïl, et que c'est seulement par rapport à la cuisson que il pense qu'il n'y a pas de Hoïl puisque ça va servir, on sait que ça va servir à personne. Rashi répond à ça, il dit c'est pas comparable. Il dit parce que quand est-ce que Rabbi Yoshua il a dit qu'on dit pas Hoïl, que le fait de dire que puisque il pourrait théoriquement annuler le prélèvement, donc il va transgresser l'édition de Balirei ou Balimatsé, c'est parce que Rabbi Yoshua pense que ça ne suffit pas, le fait qu'il puisse annuler le prélèvement, ça fait pas que maintenant cette pâte lui appartient, parce que pour l'instant cette pâte ne lui appartient pas, pour l'instant elle est chala, il l'a pas encore annulé le prélèvement, donc on peut pas dire que cette pâte lui appartient et qu'il va transgresser le issur de Balirei ou Balimatsé. Rashi dit que ça c'est l'explication qu'il a entendue, mais il n'est pas d'accord avec cette explication. Pourquoi? Il dit c'est pas possible, même d'après Rabbi Eliezer, c'est pas possible de dire que Hoïl, justement, de dire que puisque il pourrait annuler ce prélèvement, donc c'est comme si ça lui appartenait et il va transgresser le sur de Balirei ou Balimatsé. Il dit la preuve, c'est que on sait que on exclut du pasouk de le Yirael et Chachamet de Chaseor, c'est écrit Shelcha Yataroua Yataroua Shel Gavoa. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir du Chametz de Hekdesh à la maison, ne transgresse pas le sur de Balirei ou Balimatsé pour du Chametz de Hekdesh. Il dit or, si tu dis Oïl d'après Rabbi Eliezer, là aussi tu devrais dire Oïl puisqu'il a la possibilité de racheter le Hekdesh et ça va lui appartenir. Donc il va transgresser le issur de Balirei ou Balimatsé même maintenant tant qu'il l'a pas racheté. Donc tu vois que si Rabbi Eliezer n'a pas dit ça là-bas, il n'a pas dit qu'on transgresse le issur de Balirei ou Balimatsé par rapport au Hekdesh. Donc ça veut dire que on dit pas cette Svara de Hoïl dans ce contexte-là. La Svara de Hoïl ne permet pas de considérer ça comme lui appartenant. Deuxième question de Rashi, il dit on a expliqué plus haut que quand Rabbi Barhama a dit que la Machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua correspond à la Machloket entre Rabba et Rav Chisda par rapport au Hoïl. C'est pas par rapport au Hoïl qu'on avait dit plus haut ce Hoïl de cette possibilité d'annuler le prélèvement, mais par rapport au Hoïl, la possibilité de manger les pains par rapport à la cuisson du pain. Il dit ça c'est difficile de dire que l'Agma elle a parlé d'une Svara de Hoïl, d'une Machloket de Hoïl entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et maintenant elle fait référence à une autre Machloket de Hoïl entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. À cause de ça, Rashi et rapporte une autre Gersa de la Gemara en haut, où quand la Gemara a proposé de dire que la Machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua c'est par rapport à Hoïl, c'est pas là, il faut pas dire comme on avait vu là-haut Hoïl veiba mitchilale, on dit simplement Hoïl, ça veut dire que la Machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua c'est par rapport à Hoïl, et effectivement la Machloket, ce que la Gemara a proposé plus haut, c'est de dire que la Machloket c'est par rapport au Hoïl de la cuisson. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de cuire toute la matzah, en sachant que après il y a une matzah qui va devenir challah et qui va pas pouvoir être consommée parce que c'est de la challah tmea. Donc c'est-à-dire que la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, c'est pas par rapport à la transgression de Balirei ou Balimatseh. Même d'après Rabbi Eliezer, selon cette explication de Rashi, même d'après Rabbi Eliezer, on ne transgresse pas le issur de Balirei ou Balimatseh, parce que le challah ne lui appartient pas. Seulement, la machloket, c'est est-ce qu'on peut cuire d'abord et prélever après ou pas? D'après Rabbi Eliezer, on peut cuire d'abord et prélever après, parce qu'il y a la svara de Hoïl, puisque théoriquement, il pourrait manger de chaque matzah, donc il a le droit de toutes les cuire. Et d'après Rabbi Yehoshua, on n'est pas la svara de Hoïl, donc il ne peut pas cuire toutes les matzot, même avant de prélever la challah, puisqu'on sait que finalement, il y a une matzah qui va être challah et qu'il ne va pas consommer. Agmara dit Amrou Rabbanan Kamed Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira. Les Chachamim ont rapporté ce que Rami Bar Chama a dit à Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira. Donc ce que Rami Bar Chama a dit, que la machloket entre Rabbi Zira et Rabbi Yehoshua, c'est la même machloket que Rabba et Rav Chisda. L'Agmara a dit Rabbi Yirmiyah Kibla. Rabbi Yirmiyah a accepté, était d'accord avec ce que Rami Bar Chama a dit. Rabbi Zira lo Kibla. Alors que Rabbi Zira, il n'a pas accepté, il n'était pas d'accord avec Rami Bar Chama. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah a dit Rabbi Zera, Milta de Kashyalan va atia kama shane, mais ma pligé Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, acheta amroa mishme de gavar rabba velo nikabla. Il dit, mais cette chose-là, qui nous était difficile pendant des années, quelle est la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua? Maintenant, on a une explication qui a été rapportée au nom d'un grand homme, donc Rami Bar Chama, et on va pas l'accepter. Pourquoi est-ce qu'ils avaient une difficulté par rapport à cette machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua? On avait vu tout au début de l'Agmara, que l'Agmara avait proposé une première explication de la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, c'est par rapport à Tovatana Mamon ou Ena Mamon. C'est-à-dire la possibilité que le Balabaïta de choisir le Kohen à qui va donner cette Rala, est-ce que c'est considéré comme une propriété financière sur cette Rala, et donc il va transgresser l'issur de Balirei ou Balimatseh, ou pas? Que d'après Rabbi Eliezer, c'est considéré comme une propriété, et donc il transgresse l'issur de Balirei ou Balimatseh si cette Rala devient Khametz. Alors que d'après Rabbi Yehoshua, non. Seulement, la difficulté qu'ils avaient par rapport à ça, Rashi explique, c'est que même si Rabbi Eliezer effectivement pense qu'on transgresse l'issur de Balirei ou Balimatseh par rapport à cette challah si elle devient Khametz, mais ça ne permet pas pour autant de cuire la matzah avant de prélever la challah, parce que puisque finalement il y a une matzah qui va être challah. Donc, on n'a pas le droit de la cuire puisque elle va pas pouvoir être mangée puisque c'est de la challah tmea. Donc, on n'a pas le droit de la cuire. Donc, pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer préfère qu'il transgresse le issour de faire une melacha pendant Yom Tov, de cuire pendant Yom Tov inutilement, puisqu'il va cuire une matzah inutilement, plutôt que de transgresser le issour de Balirei ou Balimatseh? Alors, j'ai dit, il aurait mieux valu que ce soit le contraire, de transgresser le issour de Balirei ou Balimatseh de manière passive, simplement en laissant cette challah devenir mouktzé, plutôt que de faire un acte de cuire et de transgresser Yom Tov de cette manière-là. Donc, il lui dit, mais maintenant, on a une explication, que Rabbi Eliezer, il dit qu'on transgresse pas de Issour, puisque il y a la svara de Hoïl, que comme il a la possibilité de consommer, de manger de toutes les matzot en prélevant un petit bout de chacune, donc c'est pour ça qu'on a le droit de toutes les cuire. Donc il dit, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas cette explication? Amarlé, alors Rabbi Zera répond à Rabbi Yirmiyah, Echi Kabla, comment est-ce que je vais accepter cette explication? Des Tanina, alors qu'on a enseigné dans la Breita, Amarlé Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Zera, Lotah Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Zera, mais d'après toi, il transgresse l'issur de Lotah Sekol Melacha, en cuisant cette matzah, il va transgresser l'issur de faire des melachot pendant Yom Tov, puisque il cuit une matzah qui ne va pas être consommée. Véchatiklé. Et Rabbi Eliezer ne lui a pas répondu. Véhita, l'imaleta, m'a dit Mishumoïl. Or, si effectivement Rabbi Eliezer, ça se fera, c'est que on dit Oïl, pourquoi est-ce qu'il lui a pas répondu ça? Il aurait dû lui dire que ma raison, pourquoi est-ce que je permets de faire ça, c'est à cause d'Oïl. Donc il dit, tu vois bien que c'est pas ça la raison de Rabbi Eliezer. Amarlé. Alors, Rabbi Yirmiyah répond à Rabbi Zera et lui dit, Velita mer. Alors d'après toi, Hadet Tanina Bebraïta, ce qu'on a c'est dans une autre Braïta, Marlo Rabelezer, Lidvarecha Reover Mishumbali Reobali Matse et Veshatikle. Alors, il y a une autre Braïta qui rapporte l'argument de Rabelezer contre Rabbi Yoshua. Il dit d'après toi, qui dit que on prélève avant de cuire, alors on va transgresser les sur de Bali Reobali Matse puisque ça va devenir Chametz. Veshatikle. Et Rabbi Yoshua ne lui a pas répondu. Achenami de Loaderle, est-ce que tu crois vraiment que il pouvait pas lui répondre? Akema derle matitin. Netna nozeu chametz shemuzarin alav mishumbali rebali matze. Mais dans la Mishnah, il lui a répondu. Il lui a dit sur ce chametz, on n'a pas de l'issue de bali rebali matze puisqu'il lui appartient pas. Et là, chatikle bebreta, ou ma derle matitin. Alors qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire effectivement, la breta n'a pas rapporté la réponse de Rabbi Yoshua, mais parce que dans la Mishnah, c'est rapporté. Donc, puisque c'est rapporté dans la Mishnah, la Breta n'a pas pris la peine de rapporter la réponse de Rabbi Yoshua. Achanami, imur shatikle bematnita, va aderle bemechilta achriti. Alors là aussi, c'est pareil par rapport à l'argument de Rabbi Yoshua contre Rabbi Eliezer. Même si dans la Breta que tu as rapporté, on voit pas la réponse de Rabbi Eliezer, peut-être que ici, ça n'a pas été rapporté, mais peut-être que c'est rapporté dans une autre Breta qui se trouve ailleurs. Et, donc, c'est pour ça que il dit que on peut dire effectivement qu'il y a deux machlokot entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est une double machloket. Et comme on a dit par rapport à Tova Tanaa, Mamon ou Ena Mamon, est-ce que le fait de pouvoir choisir à quel Kohen donner cette chala, ça c'est considéré comme une propriété financière sur cette pâte, et donc on transgresse l'issur de Balira ou Balimatse ou pas, et donc on transgresse l'issur de Balira ou Balimatse. D'après Rabbi Eliezer, oui. C'est considéré comme mammon. D'après Rabbi Yoshua, non, c'est pas considéré comme mammon, c'est pas considéré comme une propriété financière. Et donc, on ne transgresse pas le sur de Balira ou Balimatse. Et deuxièmement, il y a aussi une machloket, est-ce qu'on peut faire comme ce que Rabbi Eliezer propose? C'est-à-dire, de commencer par cuire et ensuite prélever la challah. D'après, Rabbi Eliezer, c'est possible, grâce à la svara de Ohil, puisqu'il pourrait manger de toutes les matzot en prélevant un petit bout de chacune comme, challah. Donc ça lui permet de cuire toutes les matzot, même si finalement il va prélever une matzah entière sur toutes les autres matzot. Alors que d'après Rabbi Yoshua, c'est pas possible parce qu'on n'est pas à la svara de Ohil. Donc comme Rabbi Bachama a expliqué plus haut. Tania, on en sait dans une baïta. Rabbi Omer alacha ki Rabbi Eliezer. Rabbi dit que l'alacha est comme Rabbi Eliezer, qui a dit que on cuit la pâte avant de prélever la chala. Rabbi Yitzhak Amar alacha ki Ben Betera. Alors que Rabbi Yitzhak a dit que l'alacha est comme Ben Betera, qui dit que on prélève la challah avant la cuisson et qu'on plonge la challah dans de l'eau froide pour ne pas qu'elle devienne chamet. Vekamashi orissa, et la Breita demande quelle est la taille de la quantité de pâte que on peut pétrir pendant Pessah sans craindre que ça devienne chamet. C'est-à-dire que si on fait une pâte trop grande, donc on va pas pouvoir travailler toute la pâte pour l'empêcher de devenir chamet. Donc quelle est la quantité de pâte qu'on peut pétrir pendant Pessah sans craindre qu'elle devienne chametz. Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yochanan ben Beruka Omer Bechitin Kabin ou Beseurin Shoshet Kabin. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beruka, dit que si c'est du blé, on peut faire une pâte de 2 kabines, et si c'est de l'orge, on peut faire une pâte de 3 kabines. C'est-à-dire que d'après Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yochanan ben Beruka, l'orge devient moins facilement chametz que le blé, donc on peut faire une plus grande quantité. Rabbi Nathan Omer Mishum Rabbi Eliezer Chilouf Advarim. Et Rabbi Nathan dit au nom de Rabbi Eliezer que c'est le contraire. Pour l'orge, 2 kabines et pour le blé, 3 kabines. C'est-à-dire que d'après lui, l'orge devient plus facilement chametz que le blé. Le Gemara demande, Ve'atania, pourtant, c'est dans une autre braïta, Rabbi Ishmael, Benoche, Rabbi Yochanan, Beruka, Omer, Bechitin, Shloshet, Kabin, ou Beseorin, Arba, Kabin. Et l'autre braïta dit que d'après Rabbi Ishmael, Benoche, Rabbi Yochanan, Beruka, on peut faire une pâte de blé de 3 kabines et d'orge de 4 kabines. Alors que dans la première braïta, on a dit pour le blé 2 kabines et pour l'orge 3 kabines après Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yochanan ben Beruka. La Gemara dit la kasha, c'est pas contradictoire. Ha bechasichata, ha bemaaliata. La deuxième braïta parle du blé et de l'orge de mauvaise qualité, alors que la première braïta parle du blé et de l'orge de bonne qualité. C'est-à-dire que la quantité de farine qu'on obtient avec du blé de mauvaise qualité, avec 3 cabines de blé de mauvaise qualité, c'est la même quantité de farine qu'on obtient de 2 cabines de blé de bonne qualité, et la quantité de farine qu'on obtient de 4 cabines d'orge de mauvaise qualité correspond à la quantité de farine qu'on obtient de 3 cabines d'orge de bonne qualité. Amar Rav Papa, Rav Papa dit, Shma Mina, on peut déduire de là, Gri'in chite chasichata mechite me'aliata, tfe mide gri'an sare chasichata mi sare me'aliata. que la différence entre du blé de bonne qualité et de mauvaise qualité est plus importante que la différence entre de l'orge de mauvaise qualité et l'orge de bonne qualité. Deilu atam tilta v'achariva. Puisque par rapport au blé, la différence est d'un tiers. Puisque on a dit que le deux cabines de blé de bonne qualité, ça correspond à trois cabines de blé de mauvaise qualité. Alors que pour l'orge, la différence est d'un quart, puisqu'on a dit que trois cabines d'orge de bonne qualité correspondent à quatre cabines d'orge de mauvaise qualité. Et Rashi explique que l'importance de savoir ça, c'est par rapport au commerce. Amar Rav, Rav a dit, Kava melugna lepisra vechan nechala. Rav a dit que la quantité qu'on pétrit de pâtes pour Pessah, c'est un kav de melugna, d'un endroit qui s'appelle melugna, et c'est pareil aussi pour la chala, ça veut dire que c'est la quantité de pâtes pour laquelle il faut prélever la chala. La Gemara demande, ve'atnan, pourtant c'est dans la Mishnah, dans Maseret Chala, chameshet revaim kemar ve'ot chavim bechala, que la quantité qui est chav de chala, c'est 5 quarts. Alors revaim, c'est des quarts de kav, ça veut dire des lugin, puisque un kav, ça fait 4 lugin. Donc 5 lugin et encore un petit peu de farine sur chav de chala. Alors ici, il y a deux gersot, Rachid et pas gores ve'od. Il dit simplement Chameshet Revaim Kemach Chavin Bechala et Tosfot rapporte que Rabbi Tam, lui, il était Gores Vod. On va expliquer tout de suite. Alors 5 5 lugin de farine sur Chav de Chala. Comment est-ce qu'on arrive à cette quantité là? Parce que c'est écrit à propos du Chiyuv de Afrashat Chala, c'est écrit Reshit Arisotechem, qu'on doit prélever la challah sur, c'est les prémices de vos pâtes. C'est quoi vos pâtes? La Gemara dit qu'il est sat midbar. C'est la quantité de pâtes du désert, c'est-à-dire la quantité de manne qui est recevée dans le désert. Et la quantité de manne qui est recevée dans le désert, c'est un homer. Et le homer, c'est asirit haefa. C'est un dixième de haefa. Or, une haefa fait 3 séines. Une séa fait 6 cabines. Et un ka fait 4 lougines. Donc, c'est-à-dire que une EFA fait 72 lugin. Donc, un dixième de EFA, qui est la quantité de Homer, qui est la quantité qui est chav de Chala, c'est 7,2 lugin. Sauf que 7,2 lugin, c'est d'après les mesures midbariot. Or, après, les Chachamim ont rajouté, ils ont transformé les quantités, ils ont agrandi les mesures, à deux reprises. Donc ils ont ajouté à chaque fois un cinquième. D'abord, ils ont les mesures du midbar, les midbariot, ils ont rajouté un cinquième et c'est devenu les mesures yerushalmiot. Et après, ils ont rajouté encore un cinquième, c'est devenu les mesures tsipuriot. Donc en rajoutant deux fois un cinquième sur 7,2, donc ça veut dire que d'après les nouvelles mesures, 5 lugin, ça correspond à 7,2 lugin des lugins des midbariot. Donc c'est pour ça que c'est écrit ici que 5 lugins sont chayav de chala. Ça c'est d'après Rashi. D'après la Gersa de Tosfot qui sont gores veot, comme c'est écrit chez nous dans la Gemara, il explique que c'est d'après la Shita de Rabbi aussi qui pense que la quantité d'un homer c'est ce qui doit rester après avoir prélevé le chala, la chala. Donc chameshet revaim kemach veod, il faut un petit peu plus, qui est la quantité qu'on va prélever pour la chala, et il va rester donc 5 lugins de farine, et ça correspond à 43 betsim, 2. Donc, ça contredit ce que Rav a dit, puisque Rav a dit un kav de melugna, et l'agma a compris que le kav de melugna, c'était un kav ordinaire. Alors là, c'est écrit 5 lugins, et donc c'est plus qu'un kav. L'agma a dit « achikama ». Voilà ce que Rav veut dire. Kava melugnai nami aishiura kae. Effectivement, le kav de melugna, il faisait 5 lugin des lugin ordinaires de Tsipori. Amar Rav Yosef a dit, hane neshe didan naug lemefa kafiza lepisra. Nos femmes ont l'habitude de pétrir pendant Pessah des quantités de kafiza, ça veut dire 3 lugin. Non pas 5 lugin, mais elles étaient mahmir pour éviter que ça devienne chametz. elle faisait une plus petite quantité de 3 louguines. Amarle Abaye. Abaye lui a dit, Maïda Atir le Khumra, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est une Khumra? Khumra daté des Kula ou? C'est une Khumra qui amène à une Kula, des Kamafkala Mechala, parce qu'à cause de ça, elle le rend pas tour de Khala. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une pâte sur laquelle on va prélever la Khala, là, elles font des pâtes sur lesquelles on va pas prélever la Khala. Amarle Davdan Kerabeliezer. Elle lui a répondu, elles font comme Rabbi Eliezer, d'Etnan, parce qu'on sait dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer Arodé Venoten Lassa, Lassa Metzarfan Lechala. Rabbi Eliezer dit que celui qui sort le pain du four et qui met le pain dans un panier, quand on a mis tous les pains dans le panier il les associe pour que ça soit chalav de chala. C'est-à-dire que même si chaque pain à part, même si on a pétri chaque pain à part, et que chaque pain à part n'a pas la quantité de, qui est chalav de chala, mais à partir du moment où on va les mettre dans le même panier après les avoir cuits, ça le rend chalav de chala. Ve'amar Ravuda Mar Shmuel, Ravuda a des noms de Shmuel, la chak Rabbi Eliezer, que la chak comme Rabbi Eliezer, que il y a ce qu'on appelle le tsirouf sal, le fait de les associer dans le même panier, les rend chalav de chala. Amar le ve'itmar ala, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, lo shanu la kikarot shel bavel shel shrot zomizo, aval ke'achin lo. Elle lui a dit, mais pourtant Rabbi Yoshua ben Levi a dit que, quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit que c'est chalav de chala si on les met dans le même panier? C'est seulement c'est des pains de Bavel qui mordent l'un sur l'autre, c'est-à-dire que les pains de Bavel, comme ils étaient larges et ils étaient ronds, comme nos matzot, donc dans le four ils se collaient les uns aux autres. Donc il dit qu'il y a une condition supplémentaire pour que ça s'associe pour être rêve de Khala, c'est que aussi ils soient collés les uns aux autres. Mais s'ils sont karachin, si c'est des pains allongés et étroits et donc ils se collent pas les uns aux autres dans le four, donc c'est pas chalav de chala. Donc lui dit puisque les femmes faisaient des pains ordinaires, des pains karachin, donc c'est-à-dire qui étaient allongés et étroits, donc ils vont pas être chalav de chala. Lui a dit itmar ala, mais on en sait là-dessus, amar Rabbi Chanina afilu karachin. Rabbi Chanina n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Levi. Il dit même si c'est karachin, c'est aussi chalav de chala, c'est-à-dire même si ils se collent pas les uns aux autres, ils sont quand même chalav de chala. Bah, Rabbi Irmiya a demandé, Tavla shenla levas vazin mahu. Si on pose les pains sur une planche qui n'a pas de rebord, c'est-à-dire que il n'y a pas de paroi sur le côté, c'est une planche qui est plate, quel est le din? C'est-à-dire, est-ce que ça associe les pains pour les rendre chalav de chala, si chacun n'a pas le shiur de chala et qu'ensemble ils ont le shiur de chala ou pas? Torkli Bainan Valeka, il explique sa question, il dit, est-ce qu'il faut que ça soit à l'intérieur d'un récipient? Or, c'est pas le cas ici, puisqu'il n'y a pas de paroi, donc c'est pas à l'intérieur. Odilma Avir Kli Bainan Valeka. Ou alors, est-ce qu'on va dire qu'il faut juste que ça soit dans l'espace d'un keli? Or là, c'est dans le même espace, dans l'espace du même keli. Et donc, ça peut s'associer pour être rêve de Khala. Teku, la question reste posée et n'a pas été répondue. Tania, on enseigne dans une breta, Rabbi Eliezer Omer Asal Metzarfan. Rabbi Eliezer dit que le panier les associe. Rabbi Yoshua Omer Tanur Metzarfan. Rabbi Yoshua dit que même le four, il peut les associer pour les rendre rêves de Khala, même si on les a pas mis dans le même panier, après les avoir sortis du four. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Kikarot Shelbavel Shelashrot Zobazo Metzarfot. Rabbi Shimon Gamliel dit que si c'est des pains de Bavel, donc qui se collent les uns aux autres, ça s'associe, mais pas si c'est des pains allongés qui ne se collent pas. La Mishnah dit Rabban Gamliel Omer Shalosh Nashim Lashot Keachat Vofot Betanur Echat Zo Acharzo. Rabban Gamliel dit que trois femmes peuvent pétrir des pâtes en même temps et les cuire dans le même four l'une après l'autre. C'est-à-dire que même si c'est un four qui est petit et donc la quantité que chaque femme pétrit remplit tout le four, donc elles peuvent pas cuire en même temps leurs pâtes, elles peuvent quand même les pétrir en même temps et les cuire après successivement l'une après l'autre, bien que elles vont devoir attendre que les autres, c'est-à-dire la troisième femme va devoir attendre que les deux premières cuisent leurs pâtes pour pouvoir cuire sa pâte à elle, et en attendant donc la pâte va rester posée. Malgré tout, on craint pas qu'elles deviennent chametz pendant ce temps, et elles peuvent faire de cette manière-là. Vachachamim omrim, alors que les chachamim disent, shalosh nashim oskot batzek ke'achat, achat lasha v'achat orechet v'achat ofa. Chachamim disent que trois femmes, elles peuvent travailler la pâte en même temps, mais pas à la même étape. C'est-à-dire que pendant que l'une pétrit, l'autre, elle forme les pains, et la troisième, elle cuit. Donc ça veut dire que elles travaillent toutes les trois leurs pâtes, mais de manière décalée, de telle manière que pendant que l'une cuit, l'autre est en train de former, et la troisième est en train de pétrir, et donc quand elle aura terminé de cuire, celle qui était en train de former, elle va pouvoir tout de suite rentrer son pain dans le four, et ainsi de suite. Et l'Agmara apportera une braïta qui explique plus en détail comment ça se passe. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Lo kol anashim, lo kol haetzim, lo kol hatanurim shavin. Donc on verra dans l'Agmara que Rabbi Akiva, c'est un argument contre Rabban Gamliel qu'il est en train de donner. Il dit, comment est-ce que tu dis que trois femmes peuvent pétrir en même temps et cuire dans le même four l'une après l'autre, mais toutes les femmes ne sont pas comparables, tous les bois ne sont pas comparables et tous les fours ne sont pas comparables. Ça veut dire que il y a des femmes qui pétrissent plus vite, il y en a qui pétrissent moins vite, il y a des bois qui brûlent plus vite, il y en a qui brûlent moins vite, et il y a des fours aussi qui sont plus chauds et des fours qui sont moins chauds. Donc tu peux pas dire de manière générale que on craint pas que ça devienne Hametz en attendant que les autres cuisent, parce que on ne sait pas combien de temps ça peut prendre, ça dépend de plusieurs paramètres. Donc on ne peut pas dire comme Rabban Gamliel que trois femmes peuvent pétrir leurs pâtes en même temps et cuire après successivement sans craindre que ça devienne Hametz. Zéaklal, tafar tiltosh metonen. Et la Mishnah dit, la règle est la suivante, si on voit que la pâte va commencer à lever, alors que la femme trempe ses mains dans de l'eau froide et qu'elle les applique sur la pâte pour l'empêcher de lever, pour la refroidir, pour ne pas qu'elle lève. Tanoura banane, on enseigne dans une braïta, l'achat, si la première femme a déjà pétri, alors elle commence à former les pains et la deuxième femme commence à pétrir à sa place. Donc c'est pour expliquer ce que Chachamim ont dit, que les trois femmes travaillent leurs pâtes mais de manière décalée. Donc la braïta explique, une fois que la première a terminé de pétrir et commence à former, la deuxième commence à pétrir. Mais qu'a-t-elle fait? Quand la première a terminé de former, alors la première commence à cuire, la deuxième commence à former à la place de la première, et la troisième commence à pétrir. Ofa, quand la première commence à cuire, quand la première a cuit, hilacha, alors elle commence à pétrir une autre pâte, vechaverta ofa tartea, et la deuxième commence à cuire à sa place, vechlichit mekatefet, et la troisième forme sa pâte, vechoseret halila, et ainsi de suite, et selon ce cycle, elle continue selon ce cycle. Kozman shoskot bebatzek eno balibdei chimout. Et tant que elle travaille la pâte ne peut pas devenir Hametz. C'est-à-dire, même si ça dure longtemps, ça ne deviendra pas Hametz. Il y a une marque entre les Rishonim, est-ce que ça veut dire que c'est de manière illimitée? Que tant qu'on travaille la pâte, on peut même la travailler pendant des heures, tant qu'on la pétrit, tant qu'on la malaxe, elle ne peut pas devenir Hametz? Ou alors, est-ce qu'il y a quand même une limite? Rabbi Akiva Omer, le kol anashim echoulé. Rabbi Akiva a dit que on ne peut pas comparer toutes les femmes, tous les bois et tous les fours. Tanya, on enseigne à Braïta, ma Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, Dantil fne Rabban Gamliel, j'ai demandé à Rabban Gamliel, il a m'dé nous rabbenou, benachim zrizot ou benachim shen zrizot. Donc Rabban Gamliel a dit que trois femmes peuvent pétrir en même temps et cuire après l'une après l'autre. Il lui a dit, mais alors enseigne-nous notre maître, benachim zrizot ou benachim shen zrizot. De quelles femmes tu as parlé? Des femmes qui sont rapides ou des femmes qui ne sont pas rapides? Il y a des femmes qui pétrissent plus vite que d'autres. Be'etzim lachim ou be'etzim yeveshim. Est-ce qu'il s'agit de bois humide ou de bois sec? Donc du bois qui brûle rapidement ou du bois qui prend du temps à brûler. Betanur cham ou betanur tsonen. Est-ce que c'est un four qui est chaud ou un four qui est froid? Amar li, et Rabbi Akiva dit, Rabban Gamliel m'a répondu, En lecha el hamashashanu chachamim, ze haklal tafar tiltosh betsonen. Il dit, tu n'as que ce que les chachamim m'ont enseigné, que la règle c'est que si on voit que ça commence à lever, alors on applique de l'eau froide dessus pour que elle ne lève pas, pour que la pâte ne lève pas, mais les femmes peuvent pétrir en même temps et après cuire successivement, et il y a toujours cette solution de mettre de l'eau froide pour empêcher de lever. La Mishnah dit, Sior Yisaref. Veochlo patour. Donc de la pâte qui est définie comme siour. Alors comme on avait déjà vu plus haut, siour, c'est une pâte qui n'a pas encore vraiment levé, mais qui commence à lever. Yissaref, quand elle est à ce stade qui est appelé siour, il faut la brûler. C'est une pâte qu'il faut brûler. Veochlo patour. Mais celui qui la mange, il est patour, il n'est pas chayav, ni karet, ni malkout. Sidouk, yissaref, veochlo chayav karet. Une pâte qui est appelée sidouk, c'est-à-dire qui a des fentes, des fissures, il faut la brûler, et celui qui la mange, il est chayav karet. Donc c'est-à-dire que c'est considéré comme du vrai chametz. Ezeu siour, kikarne chagavim. Qu'est-ce qu'on définit comme siour? C'est une pâte sur laquelle il y a des fentes comme karne chagavim, comme des antennes de sauterelles. Ça veut dire, comme les antennes de sauterelles qui vont dans des directions différentes, là aussi c'est des fissures qui ne se mélangent pas. Sidouk, shintarvus, dakin, zebazé, livré Rabbi Yehuda. Et c'est quoi la définition de sidouk? C'est quand les fentes se mélangent les unes aux autres, donc il y a beaucoup de fentes qui vont dans tous les sens et qui se mélangent, là c'est considéré déjà comme du vrai chametz, livré Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Va chachamim omrim, et chachamim disent, zebazé, aochlo chayav karet. Chachamim pense que ces deux définitions, celui qui les mange est chayav karet, c'est-à-dire même karne chagavim, même quand les fentes ne se mélangent pas, ne se rejoignent pas, mais il y en a dans un sens, dans un autre, il n'y en a pas beaucoup, et donc elles ne se mélangent pas, malgré tout, c'est considéré déjà comme du vrai chametz, il est chayav karet. Veze ou siour, alors c'est quoi la définition de siour d'après Chachamim? Kol sheirsifu panav kadam shamdu sarotav. C'est une pâte qui a pâli, comme un homme qui a les cheveux qui se sont dressés sur la tête de peur, qui pâlit. Tanou Rabanan, on enseigne dans une braïta, Ezeu Siour, c'est quoi Siour? Kol Sheir Sifu Panav Kadam Shamdu Saharotav, c'est quand la pâte a pâli, comme un homme qui a eu peur et qui a les cheveux qui se sont dressés sur la tête. Sidouk, Kikarne Chagavim, Divré Rabbi Meir. Et quelle est la définition de Sidouk? C'est quand c'est Kikarne Chagavim, comme les antennes des sauterelles, donc c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de fente mais qui se mélange pas, c'est la vie de Rabbi Meir. Donc ça veut dire que Chachamim, qui ont été cités dans la Mishnah, ça correspond à l'avis de Rabbi Meir, qui est rapporté ici dans la Breta. Va Chachamim Omrim, et Chachamim disent, Ezeu Siour, quelle est la définition de Siour? Kekarne Chagavim, comme les antennes de sauterelles. Sidouk, Shintarvus, Dakin, Zebazé. Et Sidouk, c'est quand les fentes se mélangent les unes aux autres. Et, Veze, Veze, Aochlo Chayav Karet. Et les deux, Yé Chayav Karet. Alors, Chachamim, ça correspond, la définition de Siour et Sidouk correspond à la définition de Rabbi Yehuda de la Mishnah. Et c'est écrit après, veze veze ochlo chayav karet. Et ces deux définitions, donc siour et sidouk, il est chayav karet. La Gemara demande, va'atnan, siour yisaref va'ochlo patour divrei Rabbi Yehuda. Mais pourtant, nous, dans la Mishnah, on a dit que le siour, il faut le brûler, mais celui qui le mange, il est patour, il est pas chayav karet. C'est l'avis de Rabbi Yehuda. Donc, puisque Chachamim de la Breita correspond à Rabbi Yehuda, comment ça se fait que c'est écrit que ce qui est défini comme siour, celui qui le mange est chayav karet? La Gemara répond, imal et Rabbi Meir, zevaze ochlo chayav karet. Il faut dire que, la dernière phrase de la Braïta de Zevazé à Ochlo Chayav Karet, c'est pas d'après Chachamim, c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que ces deux définitions de Siour et Sidouk d'après Chachamim, il est Chayav Karet, parce que d'après Rabbi Meir, ça s'appelle du Chametz Gamour, c'est seulement quand la pâte a seulement pâli et qu'il n'y a pas encore de fente, que ça s'appelle Siour et qu'on n'est pas Chayav Karet. Amar Rava, Rava a dit, Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Pourquoi est-ce qu'il pense que la pâte est comme des antennes de sauterelles, c'est déjà considéré, pourquoi le siour est déjà considéré comme du chametz gamour? Parce qu'en fait, chaque fente qu'on voit à la surface de la pâte, c'est-à-dire qu'il y a d'autres fentes en dessous, donc ça s'appelle déjà du vrai chametz.